Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bienvenue à toutes et à tous, installez-vous, c'est le débat du jour.
RFI.
Les Outre-mer, richesse de la France répartie sur l'ensemble de la planète. Ces territoires, hérités de l'histoire coloniale, ne sont pas homogènes d'un point de vue administratif, institutionnel. Depuis que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a mentionné l'éventualité de l'autonomie de la Guadeloupe comme une réponse à la crise sanitaire, économique et sociale que traversent en ce moment les Antilles françaises, le mot « autonomie » a fait bondir ceux qui ont vu une volonté de lâchage ou d'abandon des Outre-mer par l'exécutif, l'occasion d'évoquer le rapport qu'ont les ultramarins avec la République. La France est-elle déconnectée de ses Outre-mer ou même l'inverse, les Outre-mer sont-elles déconnectées de la France? C'est le débat du jour.
RFI.
Avec trois invités. Tout d'abord, Marie-Christine Ponamalé. Bonsoir, soyez la bienvenue.
Bonsoir Adrien, bonsoir au public.
Vous êtes la rédactrice en chef du média en ligne, mais pas que, intitulé Outre-mer 360. En face de vous, Victorin Lurel. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Ancien ministre des Outre-mer, sénateur socialiste de la Guadeloupe, conseiller régional, ancien député et ancien président de la région.
Un ancien quoi.
Un ancien et un actuel, puisque vous êtes aussi ici. Et puis au téléphone avec nous, Olivier Sudry, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Économiste, spécialiste de l'outre-mer, responsable du cabinet d'études DME. Pas plus tard qu'hier, devant les sénateurs, le ministre des Outre-mer a profité d'un débat sur la situation des territoires ultramarins pour revenir sur sa déclaration de la semaine dernière concernant l'autonomie de la Guadeloupe. Sébastien Lecornu assure vouloir mettre certains élus locaux de Guadeloupe donc face à leurs contradictions.
Quand certains élus de premier plan disent « ce sont les Guadeloupéens qui doivent décider pour la Guadeloupe et pas les députés et les sénateurs à Paris ». Et c'est là où j'ai pris au mot ces élus en disant « mais c'est un département de la République, la Guadeloupe comme la Martinique, mais en l'occurrence c'est en Guadeloupe qu'on m'a dit ça, c'est un département de la République, la loi de la République a vocation à s'y appliquer ». Et il n'y a pas de discussion là-dessus. Ou alors il y a une demande de bonne foi, parce qu'au moins mon propos aura été remis dans son contexte une bonne fois pour toutes, et vous souhaitez adapter la loi, mais c'est plus que de la différenciation sur une loi sanitaire, d'adapter la loi. Et pardon, je le dis ici dans la Chambre des territoires, il y a un modèle, c'est l'autonomie qu'on connaît dans notre Constitution, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie.
Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, hier au Sénat. Alors les uns et les autres, comment avez-vous reçu, perçu cette proposition de débattre de l'autonomie de la Guadeloupe? Avec vous, tout d'abord, Marie-Christine Ponamalé.
Alors tout d'abord pour moi, pour rappeler le contexte, le ministre Sébastien Lecornu avait indiqué cette autonomie dans une vidéo de 16 minutes lorsqu'il s'adressait à la population de Guadeloupe un soir de la semaine dernière. Donc c'était une petite phrase à la fin d'une intervention lorsqu'il parlait des mesures, de ce qu'il fallait faire, rétablir l'ordre et puis surtout des mesures pour les jeunes. Et c'est arrivé vers la fin. Rappelons le contexte, on venait d'avoir la semaine du congrès des maires, donc les élus étaient à Paris, ils avaient demandé, je parle sous le contrôle du sénateur Victorin Lurel, de rencontrer le Premier ministre suite aux événements de ce qui se passait en Guadeloupe et de se réunir tous autour de la table, de reprendre en main cette gestion de crise. Et c'est vrai que tout au long de cette semaine, certains élus, pas M. Lurel bien évidemment, avaient dit « il faut qu'on retrouve cette gestion de crise, il faut qu'on soit au devant de la scène ». Et quelques-uns avaient cité « oui, et c'est le cas de la Polynésie d'ailleurs ». Donc il y avait un petit mélange et du coup il a fait aussi une petite, on va dire, il a dit « chiche » aux gens finalement.
Et plus personnellement, vous en avez pensé quoi?
Plus personnellement, moi ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas choqué, c'est une ouverture, il l'a mis sur la table, il l'a dit « je suis ouvert ». Donc finalement, il ne leur a pas dit, peut-être qu'on peut le dire « oui, allez, prenez votre autonomie ». Non, il a dit « je suis ouvert à toute proposition ». C'était mon premier point de vue. Bien évidemment, après, ça a pris le lendemain, au réveil, qu'est-ce que je vois? Tous les médias ont pris le mot « autonomie » et n'ont pas retenu les propositions adressées à la jeunesse ni le retour au calme.
Victorin Lurel, vous vous êtes senti concerné, ancien ministre, c'est une question que vous vous posez, l'autonomie de la Guadeloupe?
Oui, bien entendu. Bien entendu, je n'ai pas été du tout étonné ni choqué par les propos du ministre, puisque certains élus certains partis politiques guadeloupéens, en tout cas, avaient mis dans leur communiqué plus de liberté, plus de pouvoir de décision domiciliée localement, d'autres parlaient d'autonomie. Bref, la question n'était pas étrangère, si j'ose dire, à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ça ne m'a pas vraiment choqué. En plus, en Guadeloupe, nous avons fait 2 congrès, à la demande des socialistes même, pour dire comment envisager l'avenir. Faut-il simplement une fusion du département de la région comme en Martinique, comme en Guyane ? La preuve, la Martinique est en grève. La fusion des 2 collectivités, ça n'a rien changé. Comment et quel quantum de pouvoir domicilier en Guadeloupe ? Donc la question n'est pas venue de nulle part. Hein. Donc c'est pas choquant.
Est-ce qu'elle répondait pour autant l'emploi... à la crise du moment ?
Non, mais alors ça c'est autre chose. Le ministre est un bon politique, c'est un fin politique. Saisir cette chose-là en sachant qu'il n'y a pas encore d'accord entre les partis et peut-être les élus et surtout la population qui doit trancher en dernière instance était un bon coup politique. Bon, avec ça. Vous allez plus diviser, on va voir qu'il y a un coup politique derrière. Mais la question se pose, quel degré de liberté, quel degré de décentralisation ? Comme il dit, une décentralisation poussée à l'extrême, faut-il aller sur le modèle polynésien, parce que la Polynésie et la Calédonie, c'est encore autre chose, c'est un pays. D'outre-mer. C'est un pays d'outre-mer avec un chemin vers la souveraineté totale.
Pour Élie Domota, une des grandes figures du LKP en Guadeloupe, le ministre Lecornu était à côté de la plaque avec cette proposition. L'urgence, ce sont nos salaires et l'avenir de nos jeunes. Olivier Sudry, vous êtes économiste spécialiste de l'outre-mer. Une autonomie de la Guadeloupe d'un point de vue économique, ça ressemblerait à quoi ?
On risque de décevoir. En fait, je pense que ça ne serait pas du tout une réponse à la crise économique que traverse la Guadeloupe, mais aussi la Martinique. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, quand on fait des références, que ce soit à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, Victorin Lurel a très justement rappelé que c'était des cas tout à fait spécifiques, ces 2 pays d'outre-mer ont connu une crise. En ce qui concerne, par exemple, la Polynésie, c'était une crise longue qui a duré plus de 10 ans, et très grave, absolument. La Nouvelle-Calédonie s'enfonce doucement dans une très grande difficulté. Donc autonomie est poussée aux confins de l'autonomie, c'est le mot qu'on utilise pour le désigner la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas du tout un rempart. Ça ne changera pas grand-chose sur les fondamentaux, sur l'emploi, sur la croissance. Par contre, en revanche, l'autonomie, ça laisse effectivement une plus grande latitude très certainement pour gérer les finances publiques locales, plus de degré de liberté pour collecter les impôts et affecter les dépenses. Mais ça ne réglera pas le problème de la croissance et de l'emploi, et ça ne réglera pas le problème des salaires comme l'évoquait Élie Domota.
Et pour éventuellement évacuer cette ambiguïté, autonomie n'est pas indépendance.
Tout à fait. Et je rebondis sur les propos de M. Sudry. Je suis tout à fait d'accord. Autonomie n'est pas la solution dans le sens où la Polynésie, après cette crise sanitaire, a été plus impactée au niveau économique que d'autres territoires. Elle a eu du mal à gérer toutes les modalités de remboursement aérien. Elle a eu plus de difficultés, en tout cas, que nos territoires d'outre-mer, comme que ce soit Corsaire ou Air Caraïbes. Elle a dû se battre. D'ailleurs, M. Lurel est présent pour son PGE, pour Air Tahiti Nui. Donc, en fait, l'autonomie n'est pas forcément la réponse économique. Mais par contre, on peut parler de projet. Et je vais rejoindre les propos de M. Lurel lorsqu'il répond justement l'autonomie. Oui, mais vers quel projet et pour combien d'argent ? Qu'est-ce qu'on met derrière la table sur le plan économique ?
Alors, juste avant, Victorin Lurel, quand les élus locaux de Guadeloupe disent souhaiter être différents de l'Hexagone, avoir plus de liberté de décision par les décideurs locaux, vous les soutenez en ce sens ?
Moi, je peux entendre ça et soutenir, mais pas n'importe quoi. On ne peut pas diriger un département à 8000 km, à 20 000, à 22 000 et plus pour certains territoires, comme on dirigerait le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis ou l'Essonne. C'est une évidence. C'est la rigidité, si j'ose dire, de la Constitution française qui fait que ça pose autant de problèmes ici qu'ailleurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la demande est motivée par quoi ? Quand on sait ce que dit Sudry, et que c'est pas ça qui va régler, en tout cas, à court terme, même à moyen terme, des problèmes de salaire, de compétitivité, d'ouverture, etc. Pourquoi donc demander ça? C'est un problème de dignité, c'est un problème de malaise existentiel. Les élus veulent, ils vivent ça très mal, que les décisions viennent de Paris, que la directrice de l'ARS de Guadeloupe soit nommée de Paris et qu'ils ne soient pas associés. Ils ont l'impression que c'est un pouvoir vertical.
Mais c'est revoir cette idée que la République reste une et indivisible.
En plus, le malaise existentiel va encore plus loin. Quand vous voyez que tous les cadres sont d'origine métropolitaine, donc ça pose un problème de cohabitation entre des personnes. Et là, c'est plus délicat, cette affaire-là. Et donc, l'État, parfois, ne comprend pas ça en disant, mais vous êtes français, vous êtes dans un espace de droit unifié, forcément, les emplois sont distribués en fonction des talents. Depuis 1789, les places et les dignités, c'est en fonction du mérite et de la méritocratie. Mais quand on voit que le résultat de la méritocratie, c'est que tous les postes dirigeants, la préfecture, elle est totalement blanche. Vous prenez ensuite les grandes entreprises EDF, France T ou Orange Caraïbes, vous prenez tous les services déconcentrés de l'État, tous les cadres, les hôpitaux, etc., ils sont détenus par des métropolitains.
Permettez-moi de vous dire, qu'ancien ministre, vous ne découvrez pas le sujet, le problème aujourd'hui.
Je peux vous en dire. On a même fait des arrêtés pour qu'il n'y ait pas trop de, comment vous dire ça, d'endogamie, pour parler un grand mot de français. On a fait des choses pour permettre aux Réunionnais, aux Martiniquais, bref, aux Polynésiens qui sont ici, sont compétents, à revenir chez eux. On a vu des policiers pour dire on va leur donner des points. Des enseignants, on leur donne des points de bonification pour pouvoir revenir chez eux. Bon, c'est pas suffisant. Vous savez qu'il y a un intranet. J'espère que ça a été corrigé. On a tenté de le faire. Je sais que certains parlementaires demandent aux différents ministères. Il y a un intranet où parfois, ce sont les copains d'abord qui ont, si j'ose dire, ils sont des initiés, des insiders. Ils savent les postes qui se libèrent et donc ils sont prioritaires pour être affectés là-bas avec, vous le savez, une surrémunération.
Que reste-t-il du passage du ministre des Outre-mer aux Antilles françaises? Sébastien Lecornu est resté sourd aux revendications sociales, préférant jouer la carte sécuritaire, dit l'intersyndicale. Parlez-nous des conditions sociales sur place, Olivier Sudry, en tant qu'économiste.
Victorien Lurel évoquait il y a un instant le malaise existentiel et il est incontestable. Et moi, j'aurais tendance à rajouter qu'à ce malaise existentiel, il y a un réel malaise économique et social. Alors, la crise a un petit peu, je dirais, non pas étouffé, mais a gommé un certain nombre de tensions. Les problèmes sont là et ils tiennent dans quelques indicateurs et qui montrent bien le réel mal-être d'une grande partie de la population. Un indicateur, le taux de pauvreté. Le nombre d'habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En moyenne nationale, on est à peu près à 15%. Quand on regarde à La Réunion, en Martinique, c'est 30%, le double. Et à La Réunion, 40%. Quand on regarde la pauvreté chez les jeunes, et qui ont été très fortement présents pour certains d'entre eux sur les barricades, le taux de pauvreté chez les jeunes de moins de 30 ans, en moyenne nationale, c'est 22%, pour être très, très exact. En Martinique, on est à 50% et à La Réunion, on est à 54%. Je ne vais pas vous assommer de chiffres. Il y en a un autre, un dernier qui moi, me pose vraiment problème. Le chômage des jeunes. Un jeune sur deux outre-mer est sans emploi.
Victorin Lurel.
Oui, non, il a parfaitement raison de dire ça. Quand je dis qu'il y a un malaise existentiel, il ne faut pas, c'est vrai, ignorer le malaise économique, social, les problèmes d'inégalité.
De vétusté de certaines infrastructures.
Si, moi j'ai des chiffres là qu'on vient de me donner, publiés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ce qu'il dit parfaitement vrai, sur les taux de pauvreté. D'ailleurs, avec des problèmes de définition entre le seuil de pauvreté au niveau national ou salaire médian au niveau européen. Bref, il y a un vrai malaise. Il y a des fins de mois qui sont difficiles. Bon, vous avez également les résultats de l'école. Il y a beaucoup de laissés pour compte, de drop-out, comme disent les Américains. Manifestement, il y a un sujet. Même si on ne peut pas dire que tout est mauvais, que tout est noir, pour parler comme ça, lorsque vous êtes en sixième, vous avez 80% de chances d'avoir le bac. C'est déjà ça. Alors, quel est le niveau et la qualité des études? C'est déjà ça. Il se trouve que... Moi, j'ai passé 15 ans en tant que député. J'ai même été ministre, j'ai été président de région. Vous faites ce qu'il faut faire, mais vous vous rendez compte quand vous arrivez à Paris, et je l'ai dit au gouvernement socialiste de l'époque, j'y étais, hein, il y a une forme d'ignorance, il y a une forme d'indifférence. Quelquefois, et c'est la raison pour laquelle les syndicats ont compris les choses, il faut que la rue parle. Et ils se sont mis en tête que la rue, c'est plus fort que les urnes. Parce qu'ils estiment qu'il y a une démocratie qui est en panne. Compte tenu du statut tel qu'il est, c'est-à-dire le droit commun, ils ont l'impression que les élus, en particulier les parlementaires, mais les grands exécutifs, président de département, président de région, ne sont pas entendus. Je ne suis même pas écouté, pas entendu du tout, pas écouté, pas entendu. Donc ils n'obtiennent pas. Donc les syndicats descendent dans la rue, s'adressent directement au président de la République, au Premier ministre, au ministre. Ce qui fait que vous, élus, vous vous trouvez entre le marteau et l'enclume, et donc c'est un peu compliqué pour le fonctionnement de la démocratie dans nos pays.
Vous étiez en exercice, si vous permettez, Victorin Lurel, en 2009. 44 jours de grève, 12 ans après, on a l'impression de redire les mêmes choses. Je me tourne vers vous, Marie-Christine Ponamalet, rédactrice en chef du média Outre-mer 360.
Mais comme l'a dit M. Sudry, en fait, la crise sanitaire a exacerbé ces problématiques qui ont de temps en temps été un peu colmatées. Il est vrai que, bon, on ne va pas jeter l'opprobre sur le ministre, M. Lurel, en tout cas, il a quand même mis en place la loi Lurel, la loi pour lutter contre la vie chère, que ce soit pour la lutte des quantités de sucre, on va dire, dans les produits. Donc, il faut savoir, est-ce qu'il dit, il y a une difficulté pour le pouvoir central de regarder ces problématiques au plus près. Mais chacun tente de faire au mieux, il est vrai. Cependant, là, pour revenir à cette situation-là, les syndicats, eux, c'est quand même une minorité, vous êtes d'accord? C'est une minorité qui a voulu mettre les revendications au départ du 2 septembre. Il y avait 32 points de la santé à l'éducation. Et alors que ce qui s'est passé la semaine d'avant, c'était sur un problème sanitaire.
Alors justement, est-ce que des anti-vax, permettez-moi cette question, aux anti-métropoles, il n'y aurait qu'un pas?
Est-ce qu'on peut dire ça? Ça a été rapide, ça a été aggloméré, mais je veux pas faire ce raccourci.
Victorin Lurel.
Depuis la départementalisation en 1946, oui, la création du Parti communiste, son indépendance par rapport au PCF, avec la création de partis locaux, de partis indépendantistes, il y a la question du rapport avec la France. Ensuite, vous avez des gens qui sont des intellectuels, l'élite anticolonialiste, anti-impérialiste. Et à l'époque, c'était des gens qui étaient de gauche. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La plupart des nationalistes, on ne peut plus dire quel est leur couleur politique. Et donc, il y a ce questionnement-là, il y a ce combat-là qui est conduit. Et tout est bon. Tout est bon pour poser la question du rapport. Par exemple, les anti-vax, c'est vrai, on fait l'amalgame. Vous trouvez parmi les manifestants des gens qui sont anti-français, hein, qui sont anticolonialistes, qui sont contre le gouvernement de Macron, mais contre la France. Et ça va même plus loin, quelquefois. Je suis le seul à le dire.
Et vous l'observez, c'est en expansion
En expansion, non, pas tellement. Mais par contre, c'est bien. Ils s'expriment. Ils exposent leur problématique. Et vous avez raison, Monsieur Lurel. Lorsqu'il y a eu cette crise sanitaire, ils ont tout mélangé.
Alors, en expansion, bon, ça fait déjà depuis une quarantaine d'années que ça dure, en particulier depuis la création en 75 de syndicats qui ont non pas seulement comme objectif de défendre les intérêts matériels et moraux des salariés, mais qui ont dans leur statut l'indépendance nationale. C'est le cas de l'UGTG avec Domota. D'autres, la CGTG qui a pris son indépendance de la CGT France, ont des méthode de guerre, de grève générale insurrectionnelle. Ils ont bien lu Georges Sorel, qui a une manière aussi de faire la révolution, c'est de bloquer un pays, de transformer ça en insurrection. Bon, quand je dis ça, ça choque, mais c'est vrai, c'est une réalité. Ils l'ont fait en 2009, j'étais en première ligne face à eux. Aujourd'hui, ils recommencent, cette fois-ci, avec des violences, avec une sorte de découplage pour dire ce n'est pas nous, ce sont des jeunes désœuvrés. Bon, il y a quand même de vraies bandes organisées, vraiment, dedans. Il y a des trafiquants dedans, qui profitent pour faire leurs affaires. Et c'est là que j'ai une différence d'appréciation avec le ministre. L'État a les moyens de régler ça. Ils ont pris trop de temps et il ne faut pas me dire que 9 barrages prend 13, 14, 15 jours pour libérer les rues. Il y a cet amalgame, la grève, ce n'est pas simplement la défense des intérêts matériels et moraux, c'est poser le problème politique. Donc les leaders syndicaux sont des leaders politiques.
Quand vous dites que le gouvernement, donc, donc a les moyens de régler cette crise. Vous en pensez quoi, Olivier Sudry ?
Moi, je crois qu'il y a, peut-être pour revenir un tout petit peu juste avant, je crois qu'il y a quand même une grande ambiguïté dans les rapports entre les Outre-mer et la métropole. Moi, j'ai souvent tendance à dire, c'est un petit peu la rengaine, je t'aime moi non plus. Hein. Oui. Je crois qu'il faut aussi peut-être souligner, alors je vais me faire l'avocat du diable, mais il faut quand même souligner l'immense effort de solidarité aussi qui a permis aux Outre-mer finalement de traverser la crise avec un petit peu moins de casse d'ailleurs qu'en métropole. Alors la solidarité, c'était le chômage partiel qui a permis effectivement de maintenir en emploi une grande partie de la population. Et quand on regarde les chiffres du chômage, on s'aperçoit que le chômage a baissé aussi bien en 2020 que dans les trois premiers trimestres de 2021. La solidarité, c'était aussi, Victorin Lurel l'a rappelé, les prêts garantis donc par l'État qui ont permis de maintenir le tissu productif. Cette solidarité, elle s'exprime quand même. Alors après, on l'oublie, mais je pense que de temps en temps, il est quand même bon aussi de le rappeler.
Alors justement, la solution ne viendrait-elle pas des Guadeloupéens eux-mêmes, Marie-Christine Ponamalé?
Ah, ça dépend sur quel plan. Là, je pense que si on parle des Guadeloupéens, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils posent leur projet. Mais pour ma part, M. Sudry l'a rappelé, la solidarité nationale, c'est quand même, je vais rajouter aussi, les efforts de soignants qui ont été envoyés en renfort pendant la crise Covid. Mmh. Et on va arriver à la cinquième vague. Donc, il ne faut pas oublier que les hôpitaux ont été plus que saturés. On a eu 1700 soignants qui sont venus au total. On a eu plus de 1800 cas pour 100 000 habitants de cas de taux d'incidence. Donc, si on n'avait pas eu ça, je ne sais pas comment on aurait pu résoudre cette crise sanitaire. Donc, oui. C'est pour ça que je ne vois pas l'un sans l'autre. Donc, un projet seul, je ne le connais pas. Remettons ça dans leur contexte géographique du bassin Caraïbes. Ceux qui ne sont pas reliés à l'Hexagone, par exemple, comment ont-ils fait? Je pense qu'il y a eu des difficultés. Et moi, je pense que c'est une chance d'être arrimé à cet archipel France. C'est pour mon sentiment et un point de vue. Peut-être que la population guadeloupéenne n'est pas d'accord. Mais si c'est le cas, M. Lurel l'a rappelé, hein, la population parlera. Mais avant tout, il y a un congrès. Le conseil départemental et le conseil régional doivent se réunir, décider ensemble. Et ensuite, c'est le Premier ministre qui lancera cette consultation avec l'accord du président. Mais ça, c'est la révision constitutionnelle. On est d'accord.
J'étais peut-être le seul élu à récuser ce que disaient les alliés macroniens de Guadeloupe en disant que la France avait abandonné les Outre-mer, et en particulier la Guadeloupe. C'est faux. M. Sudry a bien raison de rappeler les efforts considérables qui ont été faits, les aides de soignants venant de métropole, parfois même mal reçues ici ou là. Non, le job a été fait de ce point de vue. Là où j'ai un désaccord avec le ministre, M. Lecornu, moi je n'ai pas désavoué ce qu'il a dit, ni la restauration de l'ordre, c'est le style. Et comme dirait Buffon, le style étant l'homme même, venir de manière verticale, un peu virilocentriste, disons ça comme ça, s'adresser d'abord à ses troupes, j'ai dit comme Napoléon s'adressant à ses soldats, dormir dans les casernes de soldats et dire « je ne discute pas ». Bon, qu'il faille condamner les délinquants, oui, c'est clair, c'est très clair, il faut le faire. En revanche, là où je suis un peu étonné, ce sont ceux-là même qui pendant 5 ans ont soutenu ce pouvoir, alors que nous sommes bien seuls, nous les socialistes, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, vous êtes sur une mauvaise voie. On a voté une loi égalité réelle, on a voté une loi de régulation économique pour lutter contre la hausse des prix, pour défendre le pouvoir d'achat, avec un ensemble de mesures, et je n'aurai pas le temps de le dire. Mmh. Mais la loi égalité réelle, où l'article 1er dit que l'égalité entre l'Hexagone et ses Outre-mer sont un impératif national, pour la République. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pris les décrets. On a tous les moyens, par exemple, pour bloquer les prix des carburants. On a tous les moyens en matière d'éducation.
Ce qui est quand même embêtant, si vous permettez, à l'heure actuelle, le dialogue est rompu entre le gouvernement et les élus locaux.
Oui.
Ils ont boycotté la visite.
Oui, mais il faudra bien qu'ils reviennent à la table de négociation. Oui, voilà, il ne peut pas avoir fait ça et partir et dire que c'est simplement la police qui va remettre les choses en l'état, le statu quo ante, pour parler compliqué. Il faudra qu'il le fasse, on est bien d'accord. Mais il faudra bien qu'il revienne et discuter. Et quand M. Domota a dit que je n'ai pas demandé l'autonomie, etc., non, quand on regarde sa plateforme, il ne veut pas voir appliquer en Guadeloupe des lois de la République en disant nous sommes tellement différents, tellement spécifiques que l'obligation vaccinale ne va pas s'appliquer. Or, 85-90% des soignants sont vaccinés. C'est une minorité active et agissante qui veut diriger une majorité. Et là, il a raison de dire d'abord la discipline, d'abord l'ordre, et réglons les problèmes d'inégalité, les problèmes structurels. Pour ça, les plans existent. Les lois existent.
Marie-Christine Ponamalé.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec M. Lurel. Les plans existent. Ça avait été mis en œuvre. Maintenant, effectivement, pour revenir sur cette situation, peut-être la forme était maladroite. Je pense que tout le monde sera obligé d'être à la table des négociations. De toute façon, il y a une responsabilité collective. On ne peut pas laisser...
À votre connaissance, il y a des rendez-vous déjà là.
Bon, pour l'instant, en ce moment même...
Au moment où nous parlons, il y a une réunion avec l'intersyndicale. Tous les élus. Je devais être en visio, mais
ils sont à l'université et tout le monde est en train de mettre les choses à l'heure où on se parle. Maintenant, le Darmanin a dit que le ministre Lecornu était prêt à revenir en Guadeloupe. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas totalement rompu. De toute façon, il y a une obligation. Hein, on ne va pas laisser la situation pourrir ni s'envenimer.
Vous prenez, monsieur, le plan de convergence. Et Olivier Sudry nous a aidés à faire ce rapport. Ensuite, on a fait la loi. Le gouvernement de l'époque, c'était le mieux, nous avait donné 15 articles. On en a fait, je crois, 152, donc en coproduction législative. Oui. Il y a presque tout dedans, y compris le Kurzarbeit, c'est-à-dire ce qu'ici on appelle le chômage partiel, pour dire lorsqu'il y a une baisse d'activité, au lieu de licencier, il est préférable de garder les salariés, de leur assurer un minimum de salaire avec un effort fait par eux-mêmes, bref, pour garder les choses. Donc on a à peu près les armes de politique économique. C'est vrai que le problème de compétitivité va se poser. Faut-il être un PTOM ?
Donc, qui veut dire
un pays et territoire d'outre-mer qui est un statut européen qui fait que vous n'êtes pas dans le territoire douanier européen. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme territoire d'exportation. Donc, je crois que c'est la 6e directive de l'Europe. Vous êtes considéré, lorsque vous prenez ce produit-là, vous l'envoyez en Guadeloupe ou en Martinique ou à La Réunion, vous ne payez pas la TVA. Mais chez vous, en arrivant, ils paieront un chouïa. Bon, c'est une faveur qui est faite. Quand vous entendez les nationalistes parler, c'est comme si vous étiez traité un pays étranger. C'est un concept statistique. Alors certains disent qu'il faut sortir de la départementalisation ou de la régionalisation pour être un PTOM comme Saint-Barthélemy aujourd'hui.
Et faire baisser les prix de la vie au quotidien.
La Polynésie. Et ils pensent que ça ferait baisser les prix.
Qu'en pense Olivier Sudry ?
Je pense que c'est une erreur parce que concrètement, je pense qu'on partage avec Christine et Victor Noël, on a probablement le même sentiment. C'est une erreur parce que la vie chère, on la constate aussi à Saint-Martin, qui est pourtant donc une collectivité. La vie chère, elle est aussi très chère en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Oui, très chère. Et donc, en fait, là, je crois que c'est vraiment une erreur. C'est une mauvaise interprétation et le statut institutionnel. Ne réglera pas les problèmes. Les problèmes, on les connaît. Ils sont liés à l'absence de concurrence. Hein. Ces territoires sont petits. Donc, le nombre d'entreprises est limité. On est en situation qu'on appelle oligopolistique. Hein, donc, un nombre limité d'acteurs. Et ces acteurs font les prix. Alors, c'est vrai qu'il y a des phénomènes objectifs qui font les loyers, par exemple, qui majorent les coûts. Bon, mais il y a aussi des démarches qui sont élevées. Et ça, c'est indépendant du statut institutionnel des îles.
J'avais dit, après le vote de la loi à l'époque, on m'avait dit, mais si vous deviez résumer, que feriez-vous et que proposez-vous pour les Outre-mer ? J'avais eu à dire, il faut un big bang économique et social. Et il faut du zéro charge sur les entreprises pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. Et on a fait donc des plans de convergence de 10 ans. Eh bien, M. Macron et son gouvernement, Mme Girardin, aujourd'hui M. Lecornu, ils n'ont rien fait. Ils l'ont transformé en plan de convergence et de transformation, mais finalement, c'est simplement les fameux contrats de plan État-région. On n'a pas mis véritablement les moyens et surtout les armes de politique économique pour suivre en programmation et en planification. Ils l'ont pas. Il n'y a pas de volonté politique. Il faut peut-être du zéro charge. Ce n'est pas simple. Il ne faut pas changer la stabilité fiscale. À chaque loi de finances, il y a véritablement là un problème de volonté politique et d'orientation à long terme.
Cette émission en disant que les Outre-mer étaient aussi la richesse de la France. J'aimerais juste finir avec vous en quelques secondes. Rappelez aussi que la dimension internationale, c'est grâce aux Outre-mer.
Tout à fait. D'ailleurs, on a dimension internationale. On en parle justement. Monsieur Sudry parlait Polynésie, Calédonie. Oui, on peut parler axe Indo-Pacifique. On peut parler axe Caraïbes. Et surtout, ne pas oublier ces territoires aussi. Ce sont des territoires de solutions. L'innovation, ce sont aussi des territoires où le développement durable, on peut parler de photovoltaïque, on peut parler de beaucoup de choses. Il n'y a pas que des choses négatives. Et aussi,
les terres rares de Wallis et Futuna, l'hydrogène.
Exactement. Moi, j'insiste, les Outre-mer, on ne sait pas que beaucoup d'innovations viennent de ces territoires.
Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Marie-Christine Ponamalé, rédactrice en chef du Média Outre-mer 360, Victorin Lurel, actuel sénateur PS de la Guadeloupe, et puis Olivier Sudry, économiste. C'est la fin de cette émission réalisée ce soir par Jean-Philippe Thury. Merci à lui. Dans quelques secondes, le retour de l'information sur RFI.